of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 21 février 2025. Vous êtes sur VOA Afrique que nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé jeudi à ce que le multilatéralisme et le droit international restent les piliers de l'ordre mondial. C'était à l'ouverture d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg. Cette réunion de deux jours est un premier jalon menant au sommet de novembre qui sera le premier organisé en Afrique. Si les États-Unis multiplient les propositions sur l'Ukraine ou Gaza, ce rendez-vous inaugural a été snobé par le chef de la diplomatie américaine, principal absent. Marco Rubio a taxé Pretoria d'anti-américanisme en pleine brouille entre les deux pays, en raison notamment du traitement qualifié d'injuste des Afrikaners descendants des premiers colons européens, selon le président des États-Unis Donald Trump, critique d'une loi sur l'expropriation promulguée en début d'année. Les désaccords ne manquent pas entre la Maison-Blanche et le gouvernement sud-africain à l'initiative d'une plainte pour génocide à l'encontre d'Israël devant la Cour internationale de justice. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé qu'il serait lui aussi absent d'une réunion des ministres des Finances du G20 prévue au Cap mercredi et jeudi prochain en raison d'obligations à Washington. Et pour discuter de tout cela, nous avons comme invité ce soir Boris Wenou. Il est économiste, vous êtes à Montréal au Canada. Boris Wenou, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Merci pour votre disponibilité. Henri-Désiré Nzouzi est également avec nous depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous êtes producteur associé du JT diplomatique et fondateur de Networking, un événement organisé chaque mois à Kinshasa et qui met en contact les opérateurs économiques, les diplomates et les acteurs divers. Henri-Désiré Nzouzi, bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci infiniment de m'accueillir.
Louis Magloire Kemayou est avec nous en direct de Lomé au Togo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Louis Magloire, bonsoir.
Bonsoir et merci de l'invitation.
Alors, restez avec nous, Louis Magloire, puisque je commence par vous. Quel est l'enjeu pour l'Afrique du Sud et d'être le premier pays du continent à présider le G20 ou plutôt quel poids diplomatique pourrait avoir la présidence sud-africaine du G20 sur la scène internationale?
L'Afrique du Sud est le premier pays africain à devenir membre et surtout à présider le sommet du G20. Et donc, c'est pour lui, c'est un enjeu à la fois international par rapport à la place de la diplomatie sud-africaine sur la scène à la fois des BRICS et du monde entier. Et puis, il y a l'enjeu également de pouvoir endosser cette volonté de faire naître un nouvel ordre mondial sur le plan économique, parce que le G20, ne l'oublions pas, a été créé dans les années 2000 pour permettre aux Européens de juguler la crise et de contenir les éventuelles crises qui pourraient arriver et qui pourraient ressembler aux crises de 2007 et 2009. Et donc, là-dedans, l'Afrique du Sud arrive en quelque sorte pour être l'ambassadeur des pays africains, le porte-voix des pays du Sud global, et puis arriver aussi à travers cela à faire valoir la qualité de son positionnement, la qualité de sa capacité d'accueil. L'Afrique du Sud a déjà accueilli de nombreux grands événements sans couac, et donc tout cela devrait être mis dans la balance pour évaluer la qualité de ce sommet qui se tiendra en novembre, mais dont l'Afrique du Sud aujourd'hui a intérêt à ce qu'elle se passe bien, parce que c'est quand même un premier coup d'essai sur le continent africain et ça devrait normalement être un coup de maître, mais on verra bien avec la crise née entre l'Afrique du Sud et les États-Unis.
Et on en parlera. On en parle justement dans cette émission. Henri-Désiré Nzouzi, Cyril Ramaphosa a insisté lors de cette rencontre sur l'importance du multilatéralisme et du droit international. Comment ces principes peuvent-ils être renforcés face aux tensions géopolitiques actuelles qu'évoquait tout à l'heure Louis Magloire?
Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que depuis le 20 janvier 2025, nous assistons au grand retour de l'unilatéralisme. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des initiatives qui ont été prises par notamment les États-Unis dans la recherche de solutions à certains conflits. On pense évidemment à l'Ukraine, on pense également à Gaza, avec parfois même une méconnaissance en fait à la fois des équilibres, parfois chèrement acquis, et puis parfois aussi suite à la méconnaissance, je dirais, de l'histoire tout simplement. Et donc aujourd'hui, nous sommes véritablement à un point de bascule où il faut effectivement essayer de recoller, de renouer les fils du dialogue. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, il y a effectivement des tensions diplomatiques qui affectent, il faut bien le dire, le bon déroulement de ce sommet. Tensions qui sont nées, me semble-t-il, d'un profond malentendu, mais encore une fois de plus, d'une ignorance à la fois de l'histoire, mais surtout d'une réalité que vivent les Sud-Africains depuis très longtemps, mais je pense qu'on pourra en discuter. Cette nécessaire prise en compte du multilatéralisme est le moyen le plus sûr de pouvoir à la fois tenir compte des points de vue, des options qui peuvent être levées à la fois par certains groupes. On pense évidemment à l'Union européenne, on pense aux BRICS, on pense aux pays de l'Afrique. Je rappelle que c'est sous la présidence en exercice de Macky Sall que l'Afrique a été admise au G20, parce que certains spécialistes s'accordaient à dire que si vous prenez l'Afrique et que vous l'assimiliez à une puissance économique, elle serait la 8e ou la 9e puissance économique mondiale. Et donc, cela a permis, ou en tout cas favorisé cela. L'Afrique du Sud, en sa qualité de locomotive économique du continent, prend évidemment toute sa part avec un double statut, celui de membre éminent des BRICS et puis celui évidemment de puissance continentale avec ce que cela implique comme responsabilité.
Boris Wenu, Henri Désiré parle de locomotive économique. Cette rencontre des ministres des Affaires étrangères du G20 se déroule quand même dans un contexte économique assez difficile pour beaucoup de pays, y compris les États-Unis. Quel impact la présidence sud-africaine du G20 pourrait-elle avoir sur les économies africaines, notamment en matière de croissance inclusive et d'innovation financière?
Je voudrais commencer tout de suite par dire, comme mes prédécesseurs, que le symbole est très fort, que c'est pour la première fois que l'Afrique va vraiment abriter un sommet G20. C'est la première fois aussi qu'un pays africain va présider cette organisation. Je trouve que c'est symboliquement, c'est très très fort diplomatiquement pour le continent. Mais ça ne pouvait pas mal tomber. Ça tombe dans un contexte où l'unilatéralisme est revenu, que l'Amérique a d'abord est revenue. Et l'Afrique du Sud, en fait, place sous le sceau de trois éléments, c'est-à-dire l'inclusion, l'égalité et la durabilité. Franchement, je vous dis, avec l'Amérique de Trump, ces trois mots ne veulent absolument rien dire aujourd'hui. Et donc, ils tentent de construire quelque chose avec le reste du monde. Mais la locomotive mondiale, la locomotive de l'économie globale ne se retrouve pas vraiment alignée sur ces éléments-là. Pour l'Afrique, en tout cas pour répondre à votre question, je trouve que avoir les phares sur le continent, c'est une opportunité pour attirer peut-être d'autres types d'acteurs économiques qui sont notamment, pas forcément les États-Unis, mais peut-être européens, qui se repositionnent aujourd'hui par rapport à l'échiquier mondial, mais aussi asiatique. D'identifier le continent comme une plateforme où l'économie pourrait être de plus en plus pilotée, beaucoup plus florissante. C'est ce que je trouve qu'on pourrait gagner, mais pourrait-on faire ça très bien efficacement sans les États-Unis? On se pose la question.
Henri Désiré Nzouzi, vous l'évoquiez tantôt, l'absence de Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, a été remarquée. On annonce également celle du secrétaire au Trésor américain lors de la rencontre la semaine prochaine des ministres des Finances du G20. Est-ce simplement une question d'agenda surchargé ou alors il s'agit d'un message politique clair à l'Afrique du Sud ou d'unilatéralisme que vous évoquiez tantôt?
Non, il s'agit indéniablement d'un message politique. Je pense que jusqu'ici, rien n'a été fait du côté américain pour essayer peut-être de comprendre et le ressort d'une réforme qui, de toute façon, s'inscrit, je dirais, dans à la fois l'histoire, dans le vécu, dans cette réalité que vit l'Afrique du Sud. Post-apartheid. Il faut bien dire les choses. Il y a beaucoup d'interférences dans cette affaire et je pense que, de ce point de vue-là, je pense que les États-Unis, sur ce dossier, ont manqué de clairvoyance, car je ne pense pas qu'il soit utile d'ouvrir des fronts diplomatiques supplémentaires au moment même où, justement, on assiste à un retour en force de l'unilatéralisme et peut-être aussi une prise en compte beaucoup moins rationnel de certaines réalités, fût-elle africaine. Pour autant, je pense qu'il faut aussi que nous ayons à cœur de ne pas toujours miser sur une présence américaine dans ce type de cénacle. On a bien compris que l'Amérique était de retour, mais on a surtout aussi compris que nous avons, depuis quelques années, assisté à l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles puissances émergentes, et il est important, à l'image peut-être des BRICS et d'autres organisations, que nous ayons la possibilité peut-être de consolider l'émergence de ces blocs, histoire de pouvoir réécrire d'une certaine manière le narratif d'un ordre mondial que certains espèrent changer.
L'Afrique du Sud a déposé, on s'en souvient, une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice. Pretoria est également accusé, on le disait en début d'émission, du traitement qualifié d'injuste des Afrikaners descendants donc des premiers colons européens, selon le président américain Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui envenime les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, à votre avis? Est-ce que l'Afrique du Sud a les moyens, j'allais dire, de sa politique? Est-ce qu'elle peut tenir tête à Washington?
Je crois que la question ne devrait plus être posée en ces termes-là pour une raison simple, c'est que nous sommes aujourd'hui en train de parler de multilatéralisme. À partir du moment où l'enjeu est celui du multilatéralisme, il est question de diversifier les partenariats et de ne pas fabriquer des prisons dans lesquelles on restera enfermé en raison de rapports historiques qui furent intéressants ou d'une conjoncture qui n'est plus favorable. Pour moi, aujourd'hui, l'enjeu pour l'Afrique du Sud, c'est d'être véritablement le délégué des pays africains, le délégué et surtout l'avocat défenseur des intérêts économiques de l'Afrique. Et j'ai l'impression que l'Afrique du Sud l'oublie par moment. Je prends juste un exemple. Déposer une plainte contre Israël, je ne trouve pas cela inintéressant. Mais quand on voit la crise humanitaire, la tragédie humaine, que dis-je, subie par les Congolais à l'est du pays, et que cela ne mérite pas la même attention de la part du président Ramaphosa et de la diplomatie sud-africaine, je trouve que c'est un échec dans ce G20. Parce que les grands bénéficiaires des ressources minières exploitées illégalement dans l'est du Zaïre, ce sont principalement ceux que nous retrouvons à ce sommet du G20. Et je crois que c'est dans des cénacles comme celui-là que l'on doit poser ce type de questions qui méritent une réponse claire et nette de la part des acteurs qui interviennent dans cette crise, dans cette tragédie humaine vécue en RDC. La deuxième chose, c'est que nous avons mis beaucoup d'espoir pendant longtemps dans le fait que l'Afrique devrait contribuer au nouvel ordre mondial pour avoir une place au Conseil de sécurité, avoir une place dans tous les scénarios où l'on décide d'elle en son absence. Malheureusement, le fait d'avoir un seul ambassadeur, on le voit, n'est pas fiable. Et donc, finalement, l'Afrique du Sud est en train de confondre pratiquement sa diplomatie et la diplomatie et les enjeux relatifs aux économies africaines. Et c'est en ça que je suis plutôt déçu. J'aimerais que les choses se passent autrement, que l'Afrique du Sud élève en quelque sorte la qualité du débat et des discussions pour ne pas laisser sa diplomatie et son ego pénaliser pratiquement tout un continent. On l'avait vu sur le sommet concernant les réparations qui s'était tenu en Afrique du Sud. Ça avait été un fiasco également, à peu près pour les mêmes raisons, c'est-à-dire un bras de fer entre Européens et Américains sur la question des réparations du point de vue des Sud-Africains. L'on a un nouvel exemple avec ce sommet et je pense qu'à terme, on devrait peut-être faire en sorte que l'Union africaine par elle-même devienne la représentante des intérêts du continent pour peut-être arriver à éviter qu'il y ait cette collusion macabre entre les intérêts d'un pays et les intérêts de l'ensemble d'un continent.
Il va sans dire également quand même que même cette Union africaine, elle est restée sur ce qui est de la question de la RDC, assez, pour ne pas dire muette, mais pas assez vocale. Hein. Donc,
c'est vrai que l'Union africaine, pour le moment, est restée presque atone et aphone sur le sujet de la crise en RDC, mais pour cause. Il est difficile aujourd'hui de trouver un interlocuteur qui trouve grâce aux yeux de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse de la RDC en général, qu'il s'agisse du Rwanda ou qu'il s'agisse du parti au pouvoir des dirigeants. Je vous rappelle juste que lors du sommet de Dar es Salaam, on a quand même mis à la porte le dernier président de l'Union africaine avant de le reconvier à la rencontre qui se tenait. Cela en dit long sur le rapport de confiance qu'il y a entre les acteurs et l'Union africaine.
Boris Wenu, cette réunion du G20 se tient, on le disait, au moment où l'Afrique ou la plupart des pays africains subissent des dettes pas possibles. En tant que pays président le G20, quels pourraient être les leviers concrets que Pretoria peut utiliser pour aider les pays en développement et notamment donc africains à surmonter leur endettement, pour ne parler que de cet aspect-là? Louis Magloire parlait de la situation en RDC, mais il y a pire encore.
Oui, je comprends très bien la position de Louis Magloire, mais il faut comprendre que le conflit en RDC, c'est un conflit qui engage tellement de pays, l'Afrique du Sud étant aussi un d'entre eux, et on peut voir à travers les réactions parfois des acteurs de cette région-là, que c'est quand même un contexte un peu compliqué pour que l'Afrique du Sud puisse être en même temps faire partie de la solution. Alors, donc cela dit, il faut vraiment admettre que sur la question de la dette, l'Afrique du Sud elle-même aussi est endettée. Donc, comment tu joues un rôle de leader alors que tu te retrouves dans une situation économique qui n'est pas aussi bonne? Je trouve que la solution est plutôt africaine. Certes, il faut donner un rôle important à l'Afrique du Sud à cause de la taille de son économie, mais diplomatiquement, l'Afrique du Sud a un passé et donc ils veulent vivre avec ce passé-là. Et ce passé peut ne pas forcément correspondre avec la logique des autres pays africains. Et donc, lorsqu'on fait le réparti en fait, des intérêts des pays et donc où est-ce qu'il faut se positionner, l'Afrique du Sud pourrait ne pas forcément se retrouver alignée systématiquement sur ce que veut la majorité des pays africains. Et donc, dans ce cas, je pense que l'Union africaine devait prendre le leadership. Après, la question à se poser, c'est avec quoi on organise ce leadership.
Henri Désiré, vous êtes à Kinshasa. On évoquait la RDC tout à l'heure. Sans vous demander d'en dire un mot, soulignons tout de même que la guerre en Ukraine, un autre front, occupe le centre de l'actualité ces derniers jours. C'est un sujet qui divise les pays du G20 depuis quelques mois. Quels sont les risques d'un blocage diplomatique au stade actuel des débats, aussi bien à Washington, ici aux États-Unis, à Riyad en Arabie Saoudite ou à Bruxelles, une ville que vous connaissez bien?
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, les choses sont très claires. Hein. Depuis maintenant quelques jours, on voit le psychodrame qui se joue au niveau européen suite à la rencontre de Riyad entre les émissaires russes et américains, et avec cette volonté affichée des Américains de trouver avec les Russes une solution par rapport à la situation ukrainienne, faisant fi au passage de la contribution européenne pour essayer justement d'aider l'Ukraine à sortir de cette situation. En réalité, nous sommes encore une fois dans une situation où la violence et la force, je dirais, sont désormais de rigueur. C'est d'ailleurs le langage actuel hein, dans les relations internationales. Vous voulez menacer, intimider, eh bien, rien de tel que de pouvoir brandir le spectre de sanctions ou de représailles. Cela étant, il ne faut pas non plus se leurrer. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'enjeux qui dépassent totalement le cadre européen, ce qui d'ailleurs rend tout à fait crédible hein, sa posture actuelle, c'est-à-dire une division qui est déjà en voie d'être réalisée, puisque face précisément à cette funeste perspective de voir finalement qu'une solution soit trouvée sur le dos des Européens, vous avez effectivement des pays qui, dans une sorte sorte d'angoisse existentielle, envisage déjà de se rapprocher des États-Unis pour d'autres considérations. Aujourd'hui, les choses sont très simples. On va véritablement vers la mise en place, voire l'instauration d'un nouvel ordre mondial dans lequel, malheureusement, l'Europe et l'Afrique auront un rôle de spectateur. Mais si vous le permettez, pour revenir sur l'Union africaine, je ne suis pas sûr qu'il faille véritablement en attendre grand-chose. Je rappelle qu'au Conseil de sécurité, trois pays africains siègent actuellement, l'Algérie, le Sierra Leone et la Somalie. Ce sont précisément les pays qui ont tout fait empêcher que des sanctions soient votées contre le Rwanda, ce qui est assez paradoxal de la part de pays qui sont membres de l'Union africaine, qui connaissent la lettre et l'esprit de la charte, et qui malheureusement viennent simplement ajouter la confusion à la confusion dans une organisation qui aujourd'hui a fait la démonstration de son incapacité à pouvoir régler les conflits.
Louis Magloire Kemayou, un autre acteur qui intervient dans ce G20, que ce soit pour l'Ukraine aussi, c'est la Russie. La photo de groupe de cette rencontre du G20 a été annulée en raison de la présence de Sergueï Lavrov. Cela témoigne visiblement de la fracture profonde entre les pays qui composent ce G20. Sommes-nous toujours dans un lieu de consensus mondial ou alors les points de désaccord se multiplient?
Non, encore une fois, nous restons dans cette posture du vieil ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale où ce sont les plus puissants qui décident finalement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais du point de vue diplomatique et économique. Parce que si Sergueï Lavrov représente un problème par rapport à la tenue d'un sommet comme celui-là, pourquoi la Russie n'est-elle pas exclue des Nations Unies? On devrait exclure la Russie pour nous montrer qu'effectivement, ce sont des indésirables, on n'en a plus besoin, on ne veut plus les voir, on ne veut plus les entendre. Or, il s'agit là d'un sommet où on discute non pas avec des amis, mais avec les différents acteurs de la scène économique et diplomatique internationale. Donc le fait d'en exclure un de la seule volonté d'une catégorie de pays qui se considèrent les plus puissants de la planète, cela représente quand même un moyen de montrer que ces pays-là restent encore les plus importants, ce sont les seuls dont la vie compte quand on prend des décisions sur la scène internationale, et c'est dommage.
À la suite de Louis Magloire, Kemayou Boris, vous et nous, est-ce que c'est pas ce genre d'attitude justement qui favorise la création ou l'émergence des groupes comme les BRICS par exemple?
Oui, tout à fait. Je pense que qu'on le veuille ou pas, l'ordre mondial de 1945 a quand même pris des coups et va continuer à prendre des coups, notamment lorsqu'on voit le positionnement américain aujourd'hui sur la scène internationale, qu'on voit le recentrage en fait de l'Europe sur elle-même et qu'on voit aussi comment est-ce que les cartes bougent un peu du côté de l'Asie. Je pense que il revient essentiellement à la partie africaine aussi de jouer sa carte dans ce remue-ménage qu'on est en train de remarquer. Et donc oui, les BRICS c'est un élément, mais c'est tellement que les tissus vont continuer par se faire remarquer de plus en plus et souhaitons que cela n'aille pas.
Alors,
vraiment, une sorte de fracture mondiale à un moment donné.
Justement, en quelques 20 secondes, Henri, si vous le pouvez, est-ce que finalement l'attitude de Donald Trump, l'unilatéralisme, c'est pas quelque chose de bien puisqu'on a vu depuis quelques jours l'Union européenne se regrouper lorsque Trump a dit on ne finance plus l'OTAN, faites quelque chose.
Non, je pense que l'exercice a ses limites, hein, et je pense que Donald Trump va très rapidement se convertir au réalisme, et je pense que de ce point de vue-là, l'histoire nous a déjà donné des exemples dans le passé.
Louis Magloire, en 20 secondes aussi, si vous le pouvez, l'Afrique peut-elle elle-même se regrouper? Pourquoi, si l'Union africaine n'arrive pas à relever les défis du continent, est-ce qu'on peut totalement refaire cette organisation en G54, 52, je ne sais pas?
Oui, je pense qu'il faut repenser l'Union africaine. L'Union européenne, elle aussi connaît les crises. Hein. C'est pas comme si elle était exempte de critiques. Le Brexit est l'une des illustrations. L'incapacité de l'Europe à défendre, avoir une politique de défense en est une autre. Mais je pense que l'Union africaine aujourd'hui, même si elle a encore des incohérences, des insuffisances, elle peut encore se peaufiner. Et je crois au génie créatif des Africains pour améliorer cette organisation, malgré toutes les limites qu'elle connaît et dont l'enjeu est, notamment le panafricanisme. Et j'espère que, au nom de ce symbole-là et du multilatéralisme qui est prôné, l'on arrivera à avoir de belles surprises côté africain.
Boris Wenu, je vous donne le dernier mot de l'émission en 20 secondes, si vous pouvez.
Oui, première chose, pour parler vraiment de l'Union africaine, je pense que les Africains doivent forcément revoir leur stratégie. Il faut déjà en avoir. Je ne connais pas de pays en Afrique, en fait, qui a par exemple une stratégie sur la sécurité ou sur comment est-ce qu'ils abordent, en fait, les réalités mondiales. Quelle est la carte, en fait, de leurs amis économiques. Aucun pays africain ne l'a. Donc,
merci.
Il faut déjà commencer par là et puis après...
Merci. Émission produite par Georges Léonard Sagno. Présentation John Lyndon. Merci d'avoir suivi. On vous laisse en compagnie des programmes de VO Afrique. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.